L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 9 juin 1944. Le soleil se lève sur les côtes normandes. Les forces alliées viennent de débarquer 3 jours plus tôt à Omaha Beach. C'est un moment clé de la Seconde Guerre mondiale. La victoire finale peut basculer dans un camp comme dans l'autre. Le maréchal Rommel, commandant en chef du groupe d'armée allemande, est chargé de la défense des côtes de la Manche. On le surnomme le renard du désert suite à ses stratégies victorieuses en Afrique du Nord et il ne porte pas son surnom pour rien. Il a l'intuition que c'est le débarquement qu'ils attendent depuis des mois. Il en est persuadé. Le moment que tout le commandement allemand guette depuis longtemps est enfin arrivé et il le sent plus que cela. Il en est sûr. Seulement voilà. Un homme va faire en sorte qu'Hitler lui-même soit convaincu que le débarquement en Normandie est un leurre, ce qui changera le cours de la guerre. L'homme dont il est question est espagnol. Il se nomme Juan Puyol García. Nous sommes le 9 juin 1944. Il est 6 heures du matin. C'est l'heure H de mon histoire. Un moment que l'on situe précisément 3 jours après le jour J, ou le D-Day pour les anglophones. Les forces alliées ont débarqué sur les plages normandes. Le 9 juin 1944, Rommel décide de mettre sa redoutable 15e armée en route. Cap sur la Normandie, avec la ferme intention de rejeter les armées alliées à la mer et d'anéantir ce débarquement à tout prix. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le général Eisenhower et ses amis. Car on l'a dit, Rommel est un fin stratège et son armée est prête à en découdre. Seulement voilà. Tout maréchal qu'il est, Rommel doit quand même se référer à son haut commandement et surtout à un certain Adolf Hitler. Mais ce dernier ne partage pas le même avis que lui. Hitler est fermement convaincu que le véritable débarquement aura lieu à Calais. Et le 9 juin 1944 à l'aube, Hitler reçoit un message câblé de l'un de ses espions basé à Londres et en qui il a toute confiance, qui va le conforter dans cette idée. Un message sans équivoque. L'assaut qui a lieu en ce moment est un piège destiné à nous obliger, nous, Allemands, à déplacer toutes nos réserves selon une stratégie précipitée que nous regretterions ultérieurement. Pour le Führer, tout est clair. Et la conviction qu'il a depuis longtemps semble parfaitement se confirmer. Le débarquement en Normandie ne serait qu'un leurre. Hitler pense ainsi éviter un piège tendu par l'ennemi, alors qu'en réalité, il tombe carrément dedans. À ce moment crucial de la guerre, il est convaincu de prendre la bonne décision et signe le document qui le mènera à sa perte, avant de le transmettre à son haut commandement. C'est bien Calais qu'il s'agit de défendre. Il ordonne à Rommel de rappeler ses troupes, un Rommel qui va s'exécuter la mort dans l'âme. Et ça, par contre, c'est bien plus qu'une bonne nouvelle, car la décision d'Hitler s'avère très lourde de conséquences pour son propre camp. Alors qu'elle se trouve à portée de tir de la tête de pont allié, la 15e armée allemande fait demi-tour. Les alliés ont ainsi tout le temps de consolider leur position. C'est le début de la fin pour le 3e Reich, déjà très mal en point sur le front soviétique. Le message reçu par Hitler ce 9 juin 1944, au lever du jour, a plus que probablement changé le cours de la guerre et celui de notre histoire, avec un grand H. Celui qui a envoyé ce message et qui a donc piégé le Führer en personne n'est autre qu'un homme passé maître dans l'art de la tromperie, un acteur aux talents multiples, mais aussi un idéaliste qui a choisi d'agir pour le bien de l'humanité. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable histoire de Juan Puyol García, l'espion qui a piégé Hitler, sans aucun doute, le plus grand agent double de la Seconde Guerre mondiale. Né le 14 février 1912 au sein d'une famille libérale, Juan Puyol García a exercé plusieurs types d'activités sans aucun rapport avec l'expression de ses talents futurs. En 1936, la guerre civile espagnole éclate et c'est à contre-cœur qu'il y participe. Il combat tout d'abord côté républicain, puis déserte et change de camp pour le côté nationaliste. Autrement dit, pour les troupes du général Franco, ce qui lui servira plus tard. Selon lui, il n'a jamais tiré aucune balle. Et de toute façon, il ne s'est senti à l'aise dans aucun des deux camps. Juan Puyol García est un grand idéaliste. Nous allons voir de quelle manière il va apporter une contribution à la fois personnelle et remarquable aux événements majeurs qui s'annoncent. 1939. L'Espagne se remet difficilement de 3 années de guerre civile sanglante et l'ombre de la dictature s'étend sur le pays. Juan Puyol García a 27 ans. Profondément marqué par les horreurs de la guerre civile, il s'est promis de combattre toute forme de dictature. Son objectif est de poser des actes concrets pour le bien de l'humanité. Il dira « J'ai toujours voulu la justice. Je consacrerai ma vie à la liberté. » De la parole aux actes, nous allons voir comment il va franchir ce fossé qui semble énorme, excepté pour cet homme à la fois décidé et manipulateur de génie. Un personnage clé jouera un rôle important dans la vie de Juan Puyol García. Son épouse, Araceli González Carballo. Ils se rencontrent en 1938, se marient l'année suivante et surtout, sont habités par les mêmes idéaux. Tous les deux sont choqués et inquiets par la montée en puissance du nazisme. Encore meurtri, l'Espagne exprime sa neutralité dans le conflit mondial qui s'annonce. Les deux jeunes mariés décident alors de tout mettre en œuvre pour aider les alliés. L'Espagne ne s'engage pas dans le conflit. Cet État devient la terre de rencontres de diplomates, d'espions et de belligérants de tous horizons. Janvier 1941. Pour servir sa cause, Puyol García n'a qu'une idée en tête, devenir espion au service des alliés. Mais c'est loin d'être simple. Il se rend à l'ambassade d'Angleterre à Madrid pour proposer ses services aux Britanniques. Ces derniers refusent, logiquement. Un civil, sans aucune formation. Et bien qu'à cela ne tienne, appuyé par son épouse, Araceli, il tente 3 fois sa chance, en vain. Et là, nous sommes à un moment clé de cette histoire et de la légende qui va s'écrire en lettres capitales dans notre histoire, avec un grand H. On ne saura évidemment jamais quel espion il aurait été au service de Sa Majesté, mais ces refus vont être le terreau dans lequel le plus grand agent double de la Seconde Guerre mondiale puisera les ressources nécessaires à son envol. Et pour être tout à fait précis, c'est bien Araceli, son épouse, qui imaginera la suite de ce scénario hors du commun. Nous allons voir que Juan Puyol García sera bien plus qu'un simple espion. Mais n'allons pas trop vite. L'idée de son épouse. Puisque les Anglais ne veulent pas de son mari, elle ira tout simplement frapper à la porte d'en face. Si Juan Puyol travaille pour Berlin, il n'en aura que plus de prix auprès des Britanniques et ceux-ci finiront bien par l'employer comme agent double. Avouons-le, ce pari est pour le moins risqué. Araceli va donc proposer que son mari travaille pour les nazis. Elle parvient à convaincre les Allemands de le rencontrer. À l'aide d'un faux passeport diplomatique, Juan Puyol trompe ces derniers en se faisant passer pour un fervent franquiste et nazi. Il explique qu'il veut absolument participer à l'effort de guerre pour que les nazis remportent la victoire. Les Allemands, qui n'ont plus d'agents en Angleterre, sont disposés à lui accorder leur confiance. Mais ils veulent d'abord le tester, et puis aussi lui donner des cours intensifs d'espionnage. Juan Puyol, qui a tout juste 29 ans en ce moment, montre un enthousiasme sans limite aux valeurs du nazisme. On peut même dire qu'il manifeste un engagement total. Durant cette période de formation, les Allemands ne lui décèlent aucune faiblesse. Et rien que cela, ça relève déjà de l'exploit. Après de nombreux échanges et de tout aussi nombreux mensonges, l'affaire est conclue. Puyol García sera le correspondant espagnol de l'Abwehr, les services secrets allemands. Il sera basé à Londres. Sa mission consistera à mettre sur pied un système d'espionnage performant, à recruter de nouveaux agents et à infiltrer les sphères alliées pour communiquer un maximum d'informations aux nazis. En quelques semaines, Puyol García devient donc un espion des services secrets du Troisième Reich. On lui confie des codes secrets, un livre dans lequel est dissimulée une bouteille d'encre invisible et l'équivalent de 3000 dollars en pesetas. À l'époque, pas d'email, ni même de fax. Les informations doivent transiter par courrier et seront masquées grâce à de l'encre invisible. Une encre qui se révèle grâce à de la vapeur d'iode et dont le secret de fabrication a été longtemps gardé. Pour l'Abwehr, Puyol Garcia a donc mis le cap sur la capitale anglaise. Ah bon ? Vraiment ?
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous suivons les aventures extraordinaires de Juan Puyol Garcia, ce jeune Catalan qui, par idéal, décide de devenir espion au début de la Seconde Guerre mondiale et qui parvient à se faire engager par l'Abwehr, les services secrets allemands. Vous l'avez compris, si Puyol Garcia s'engage avec les Allemands, ce n'est évidemment pas pour servir le Troisième Reich, bien au contraire. Cet homme possède une imagination doublée d'un culot exceptionnel. Il peut désormais faire parler son talent et mettre en pratique son plan ingénieux de manipulation. Alors qu'on lui avait ordonné de se rendre au Royaume-Uni pour recruter d'autres agents, il déménage discrètement à Lisbonne. Il ne va bien sûr recruter personne, mais faire croire qu'il a mis sur pied une équipe performante. Il crée donc un réseau d'espions totalement imaginaire qui comptera jusqu'à 23 agents. Et pour que cette équipe de choc soit crédible, chacun de ces agents fictifs a un nom, bien sûr, mais aussi une adresse, une vie, une histoire, une personnalité et des motivations qui lui sont propres. Une fois ces personnages créés, Puyol Garcia laisse libre cours à son imagination débordante pour faire vivre son réseau d'espions. Il utilise pour cela de nombreuses sources et notamment un guide touristique sur le Royaume-Uni, des cartes, des horaires de train londoniens et un magazine trouvé dans une bibliothèque de la ville. Muni de cette documentation bien utile, il pense les faits et gestes de chacun des agents fictifs de son réseau. Et forcément, il écrit lui-même tout leur rapport. Il fait ainsi croire à l'Abwehr que son réseau est très actif à Londres. Alors, il n'y a jamais mis les pieds. Son réseau d'agents fictifs est basé à Londres, mais ceux-ci sont censés sillonner un plus grand territoire pour glaner un maximum de renseignements. Pour que l'illusion soit parfaite, il imagine de très nombreux déplacements à travers l'Angleterre, dont les frais lui sont intégralement remboursés par les Allemands. Il commence à envoyer des premières informations aux nazis dont certaines sont fondées. Troupes, aviation, etc. Mais ces infos sont secondaires. Puis, il dévoile que les Anglais testent un nouveau bateau sur un lac dans le nord-ouest du Royaume-Uni. Faux, bien sûr. Mais les Allemands y croient. Son jeu subtil commence à porter ses fruits. Les Allemands sont convaincus de son travail et Juan Puyol Garcia est désormais Arabel, un espion du Reich. Arabel étant la contraction de Araceli, le prénom de son épouse, et de Bella. Mais, on l'a dit, Puyol Garcia n'a jamais mis les pieds sur le sol britannique. Il fait donc pas mal d'erreurs. Ainsi, malgré toutes les précautions, il écrit qu'un de ses agents ferait n'importe quoi pour un litre de vin. Alors qu'à Glasgow, ce n'est pas vraiment la boisson de prédilection. On est plutôt sur la bière. Heureusement, les Allemands ne relèvent pas ce détail parmi le flot d'informations. Autre astuce mise au point par notre génial espion, il doit créer un subterfuge pour faire soi-disant transiter les messages écrits de Londres vers Madrid. Aucune de ces lettres n'est estampillée par la poste anglaise puisque tout est faux. Il crée donc un personnage, fictif bien entendu, nommé Carvalho, un Portugais vivant à Newport et qui n'est autre que le pilote d'avion avec qui il aurait sympathisé lorsqu'il s'est rendu en Angleterre. C'est grâce à lui que les messages peuvent transiter sans problème entre les deux capitales, sans bien évidemment passer par les circuits officiels. Tout cela est inventé, mais les Allemands n'y voient que du feu. Juan Puyol Garcia réalise son premier coup d'éclat. Ses agents imaginaires sont formels. Un important convoi d'une quinzaine de navires anglais est parti de Liverpool et se dirige vers la petite île de Malte, un point hautement stratégique pour contrôler la Méditerranée. Pas question pour les Allemands de négliger ce point clé entre les deux continents. La réaction ne se fait pas attendre. Convaincus de la véracité de ces informations, les Allemands et leurs alliés italiens déploient des moyens considérables pour stopper ce convoi. Bombardiers, sous-marins et navires de guerre sont déroutés vers Malte. Au grand dam des Allemands, aucun convoi n'apparaît à l'horizon. Cette opération est un véritable fiasco pour le Reich qui a dépensé énormément de moyens pour rien. Bien entendu, Puyol Garcia fournit une bonne explication. Ce sont les Italiens qui n'ont pas su garder le secret. Raison pour laquelle les Anglais ont supprimé leur expédition au dernier moment. Et les Allemands gobent cette histoire et rejettent la faute sur les Italiens. Arabelle reste leur agent de confiance. Les services secrets britanniques, qui ont suivi toutes les correspondances en secret, n'en reviennent pas que Puyol Garcia ait réussi à berner l'armée allemande de cette manière. Alors qu'il ne voulait rien entendre quelques mois auparavant. Eh bien voilà qu'il souhaite maintenant retrouver Juan Puyol Garcia à tout prix. Et comme le camp d'en face, ils sont eux aussi persuadés qu'il habite en Angleterre. Les agents britanniques battent la campagne, en vain, et pour cause. C'est finalement dans un café de Lisbonne qu'il le rencontre et l'invite à venir travailler à Londres. Le plan imaginé par le couple a fonctionné à merveille. Travailler pour les Anglais, c'est ce dont Juan Puyol Garcia rêve depuis toujours. Son incroyable carrière d'agent double peut enfin commencer. Comme couverture, il sera traducteur à la BBC. Juan Puyol Garcia, nom de code Arabelle, devient Garbo pour les Britanniques, en référence à la talentueuse actrice américaine Greta Garbo. À son arrivée à Londres, Juan Puyol s'installe dans un bureau avec comme supérieur hiérarchique Thomas Harris, 35 ans, officier du MI5 ou MI5, le Military Intelligence Section 5. Autrement dit, le service de renseignement responsable de la sécurité intérieure du Royaume-Uni. Thomas Harris est un artiste et un marchand d'art accompli. Il est issu d'une famille aisée et sa maison de Londres est un lieu de rencontre pour les agents des services secrets britanniques. C'est un homme qui n'hésite pas à prendre des risques, le partenaire idéal pour Garbo. Garbo, ou Arabelle, c'est ce nom, a toujours la confiance indéfectible des Allemands. Il travaille main dans la main avec Tom Harris et redouble d'imagination pour agrandir son réseau d'agents fictifs, fort de 23 agents fantômes. Il continue à inonder l'Abwehr de missives codées. Il écrit pas moins de 315 lettres d'une moyenne de 2000 mots, soit l'équivalent de 5 pages A4, écrites encore 12 pour chacune d'elles. Il envoie ses lettres dans une boîte postale secrète à Lisbonne. Devant la quantité de messages échangés, les services de renseignement allemands sont tout simplement dépassés. L'Abwehr exige alors d'arrêter tout recrutement d'agents en Angleterre et demande aussi à Arabelle d'envoyer désormais ses rapports par radio. Que fait alors notre manipulateur de génie? Eh bien, il recrute sur le champ un 24e agent fantôme au nom de code Almura, un paysan solitaire qui, je vous le donne en mille, est précisément un passionné de radio amateur. Celui-ci sera chargé de transmettre les rapports de Garbo. Et pour rester crédible, notre agent double glisse quelques renseignements exacts parmi le flot de chiffres et de données fallacieuses. Et lorsque Puyol Garcia ne transmet pas des informations faciles à obtenir aux renseignements allemands, il rejette la faute sur ses agents fictifs. Et vous voulez un exemple? Les Allemands ne comprennent pas pourquoi son réseau d'espions a manqué de les avertir d'une information de grande importance stratégique. C'est un faux. Le départ d'un contingent de bateaux anglais lourdement équipé qui sera partie prenante avec les troupes américaines de l'invasion alliée en Afrique du Nord en novembre 1942. Ce sera l'opération Torche, menée sous le commandement du général Eisenhower, un moment très important de la Seconde Guerre mondiale. Juan Puyol répond que c'est la faute de l'un de ses espions qui, basé à Liverpool, est tombé gravement malade et n'a donc pas pu voir cet important détachement de flotte quitter le port. Plus fort encore. Pour appuyer sa supercherie, Il fait carrément mourir son agent et publie un avis de décès dans la presse locale. Les services allemands n'y verront que du feu et notre agent double parvient même à les convaincre de payer une pension à l'attention de la veuve de cet agent qui n'a jamais existé. Pour l'Abwehr, Arabelle reste l'un des espions les plus fiables. Le Führer en personne lui voue une confiance indéfectible. Ce lien permettra à Juan Puyol García de jouer un rôle clé dans le succès de l'opération Overlord, autrement dit, le débarquement de Normandie. Mais attention, un grain de sable inattendu a failli gripper la machine mise en place jour après jour par Juan Puyol García et les services de renseignement britanniques, et celui-ci a un nom. Araceli, sa femme. Celle-là même qui a aidé son espion de mari à faire en sorte qu'il se trouve désormais dans une position éminemment stratégique. Elle ne supporte plus la vie à Londres, ni son climat, et encore moins la nourriture. Araceli craque. Elle a tout bonnement failli faire capoter toute l'affaire. Enfermée dans une maison londonienne sous haute sécurité avec son fils, cette dernière avait pour interdiction de fréquenter d'autres ressortissants espagnols de crainte de révéler le rôle central de Garbo. À bout de nerfs, elle menace de se rendre à l'ambassade d'Espagne pour révéler le double jeu de son mari si on l'empêche de rentrer au pays voir sa famille. Elle aurait déclaré ceci. « Je ne veux plus vivre 5 minutes de plus avec mon mari. Même si on me tue, j'irai à l'ambassade. Trop de macaronis, trop de pommes de terre, pas assez de poissons. » Mais que fait alors le génial Juan Puyol García? Eh bien, il crée une situation fictive, une de plus, pour solutionner le problème. Et écoutez bien. Il met en scène sa propre arrestation et son emprisonnement par ses collègues britanniques des services secrets du MI5. Sa femme est amenée dans sa cellule pour qu'elle se sente coupable, qu'elle s'excuse et promette de ne plus jamais recommencer. Araceli jure de garder la vie de son mari secrète contre sa soi-disant remise en liberté. Janvier 1944. À la vue de la concentration de troupes qui a commencé fin 43, l'imminence d'un débarquement dans le nord-ouest de l'Europe ne peut plus être cachée. Pour y faire face, les Allemands ont construit le mur de l'Atlantique, des fortifications qui couvrent l'intégralité des côtes d'Europe. C'est le légendaire Rommel qui en a le commandement. Plus de 50 divisions allemandes sont stationnées sur les côtes françaises ou à proximité. Berlin peut mobiliser ses renforts et anéantir toute tête de pont allié en moins d'une semaine et en n'importe quel point de la côte. Le mur de l'Atlantique. 4000 km de bunkers et de blockhaus placés de la Norvège au sud de la France. Des forteresses pour protéger les ports, des stations radars, des batteries d'artillerie et des obstacles anti-débarquement disposés sur les plages. Ce sont aussi de grandes quantités de mines, de fils de fer barbelés, de croix en acier et de plomb en béton. La côte atlantique est jugée imprenable. Les forces alliées n'ont aucune chance de réussir leur débarquement en Normandie. À moins qu'ils parviennent à faire croire aux Allemands qu'un débarquement plus important aura lieu à Calais. C'est le début de l'opération Fortitude, un ensemble d'opérations de désinformation et de diversion pour cacher aux Allemands le véritable lieu de débarquement, leur faire croire qu'il serait effectué ailleurs, au Pas-de-Calais ou en Norvège. Dans un second temps, une fois le débarquement commencé, faire croire le plus longtemps possible que ce n'est qu'une diversion. L'objectif est de retenir les forces allemandes dans le nord de la France et sur les autres points du mur de l'Atlantique pour permettre aux alliés de consolider leur tête de pont jusqu'à atteindre la supériorité numérique. Le rôle de notre agent double va s'avérer essentiel pour que le piège fonctionne à merveille. Février 1944. Arabelle informe l'Abwehr qu'une vaste opération se prépare en direction de Calais. En parallèle, les Alliés créent le FUSAG, une fausse armée gonflable qui sert de leurre aux Allemands. Le FUSAG. Ce sont 11 divisions fantômes. Une armée de chars et de batteries d'artillerie en caoutchouc. De fausses infrastructures. Plus de 200 faux navires, un faux terminal pétrolier et 50 escadrilles de faux Spitfire et de Mustang P-51. une fausse armée si parfaite que les photos prises d'avions par les Allemands donnent parfaitement l'impression qu'il s'agit bien d'une importante armée stationnée dans le Kent, face au Pas-de-Calais. C'est aussi de fausses informations révélant que le commandant de la fausse 3e armée américaine, à la tête du FUSAG, ne serait autre que le très respecté et redoutable général Patton. Ce qui est vrai par contre, c'est que sur le territoire britannique, aucun véritable espion allemand ne sera en mesure de révéler la supercherie à Berlin. Et pour cause. Les Anglais ont fait prisonniers tous les agents allemands présents sur leur territoire. Plus d'une centaine au total. En leur donnant le choix. Devenir agent double ou mourir. Le jour J approche. Le plus grand débarquement de tous les temps va avoir lieu sous le nom de code Opération Overlord. De janvier à juin, Arabel et ses agents envoient alors plus de 500 messages radio aux Allemands. Certains de ces messages annoncent le débarquement au mois de mai, puis sont rectifiés pour faire croire que l'équipe dirigée par Juan Puyol García glane au fur et à mesure des informations de plus en plus précises. De cette manière, l'état-major allemand et Hitler en personne continuent d'accorder leur totale confiance à Juan Puyol. Cependant, un homme, et pas n'importe lequel, le général Rommel en personne, ne croit pas au débarquement dans le Pas-de-Calais.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire du plus grand agent double de la Seconde Guerre mondiale, Juan Puyol García. Nous sommes à un moment clé de la mystification des services secrets allemands et d'Hitler en personne. Un moment où Juan Puyol García va abattre ses dernières cartes. Nous sommes le 5 juin 1944. Aussi incroyable que cela puisse paraître, notre agent double, Garbo pour les Anglais, demande l'autorisation au commandement des forces alliées de pouvoir révéler la date du débarquement aux Allemands avant le début des opérations. Et le général Eisenhower, chef suprême des forces alliées en Europe, donne personnellement son accord. Prétextant qu'un de ses agents va révéler une information capitale dans les heures à venir, Puyol García prévient l'Abwehr qu'un message important arrivera dans la nuit du 5 au 6 juin. 6 juin 1944, 3 heures du matin. Juan Puyol tente un premier contact avec les opérateurs radio allemands. Aucune réponse. Si on a baptisé, à juste titre, ce fameux 6 juin 1944 de jour le plus long pour notre agent double, la nuit du 5 au 6 juin sera la nuit la plus blanche. Il tente d'envoyer son message de nombreuses fois et ce n'est qu'à 8 heures du matin qu'il parvient enfin à établir la communication. Arabel est furieux et dit à l'opérateur allemand « Je ne peux accepter d'excuses ou de négligence. Si ce n'était pas pour mes idéaux, j'aurais déjà abandonné ma mission. » Le débarquement allié ayant déjà débuté, il donne des informations détaillées à l'Abwehr, les services secrets allemands. En donnant ces indications capitales, Puyol García s'assure de la confiance totale d'Hitler. Le Führer est à présent convaincu que le débarquement de Normandie n'est qu'un leurre et qu'une opération de bien plus grande envergure aura lieu à Calais. De son côté, Erwin Rommel, l'un des généraux les plus brillants du Troisième Reich et grand stratège, se trouve en Allemagne. Vu le mauvais temps qui règne sur la Manche, les Allemands ne s'attendent pas à un débarquement ce jour-là. Le voilà donc à Erlingen pour fêter l'anniversaire de sa femme. Mais, contrairement au Führer, Rommel a l'intuition que le débarquement qui a lieu en Normandie est bien celui qui compte. Il rentre dardard le soir même à son quartier général près de Paris. Il rassemble sa 15e armée et se met en route vers la Normandie. Cette armée, la plus vaste et la plus redoutable du Troisième Reich, a le pouvoir de repousser les forces alliées. Neuf juin 1944, trois jours. Après avoir débarqué, les Alliés n'ont qu'une crainte. Être pris en tenaille par les forces allemandes à proximité. La 15e armée est aux portes de la Normandie et le sort des Alliés repose sur Juan Puyol García. Dans un dernier coup de maître, celui-ci va changer le cours de la guerre. Arabel veut être crédible jusqu'au bout. Il fait mine de convoquer ses quatre meilleurs agents, fictifs bien sûr, pour préparer ce qui sera son coup de grâce. Au terme de cette réunion imaginaire, il n'y a plus aucun doute. L'assaut en Normandie est une diversion et le débarquement de Calais est imminent. Il envoie un ultime message à Hitler. L'assaut qui a lieu en ce moment est un piège destiné à nous obliger, nous Allemands, à déplacer toutes nos réserves selon une stratégie précipitée que nous regretterions ultérieurement. Hitler y croit, dur comme fer. Il ordonne à Rommel de retirer ses troupes. Une décision lourde de conséquences pour le Troisième Reich. Alors que la 15e armée arrive à portée de tir des Alliés, elle est obligée de faire demi-tour. Et on connaît la suite. Ce sera le début de la fin pour le Troisième Reich. Sans le génie de Puyol García, le débarquement des forces alliées en Normandie aurait pu prendre une tournure désastreuse. Pourtant, jusqu'au dernier jour du Reich, Hitler garde une confiance aveugle en Arabel, son espion favori considéré jusqu'au bout comme un fidèle partisan du Troisième Reich. Comble de l'ironie. Le 29 juillet 1944, soit bien après le débarquement, Puyol García est décoré de la Croix de Fer par les Allemands, une distinction attribuée par le Führer en personne pour ses services extraordinaires rendus à l'Allemagne. Et quatre mois plus tard, le 25 novembre 1944, il reçoit des mains du roi George VI la médaille de l'ordre de l'Empire britannique. Deux hautes distinctions. Avouons que c'est plutôt cocasse. Une dans chaque camp, preuve que son double jeu était parfait. Après la guerre, l'Espagne n'est pas un pays sûr. De peur d'être traqué par d'anciens nazis, Juan Puyol García et sa femme s'installent au Venezuela. En 1948, à la naissance de leur fille, Araceli quitte le pays et son mari pour regagner l'Espagne. Un an plus tard, elle est contactée par l'ambassade qui l'informe du décès de son mari suite à la malaria en Angola. Juan Puyol García, mort de la malaria? Vraiment? Vous le croyez, vous? Allons, allons. Mais non, voyons. Pour tourner définitivement la page, il a mis en scène sa propre mort à l'aide des services secrets britanniques. Et sans doute que le couple légendaire battait de l'aile depuis un moment. Araceli refera sa vie avec un homme d'affaires américain. 1984. Dernier coup de théâtre. L'écrivain et politicien anglais Rupert Alison, qui écrit justement un livre sur lui, retrouve l'ancien agent double au Venezuela, où il s'est remarié et a trois enfants. Juan Puyol García mène une vie tranquille, dans laquelle il est libraire. Rupert Alison parvient à le convaincre de revenir en Angleterre pour fêter les 40 ans du débarquement de Normandie. C'est un monde sous le choc qui découvre le visage de Garbo, le visage de celui qui, à juste titre, est considéré comme l'espion le plus prodigieux du siècle et peut-être même de tous les temps. C'est aussi un moment très fort pour Juan Puyol García qui est reçu à Buckingham Palace par le prince Philippe d'Édimbourg. Il déclare, à proximité des plages normandes, là où des croix blanches s'alignent à l'infini, là où chacune d'elles signifie la mort d'un jeune homme dans la force de l'âge, il déclare avec toute l'humanité qui habite ce personnage hors du commun, « J'ai fait tout ce que je pouvais pour sauver la vie de ces soldats, mais je ne suis pas arrivé à sauver ceux qui sont ici. C'est terrible pour moi de voir ce cimetière. » Et d'ajouter, « La vie des Alliés, mais aussi la vie des Allemands. » Juan Puyol García s'éteint à Caracas, quatre ans plus tard, à l'âge de 76 ans. Désormais, vous ne regarderez plus jamais les aventures de vos espions préférés avec les mêmes yeux. Reconnaissons que le génial agent double dont je viens de vous raconter l'incroyable histoire serait un héros de fiction qui n'aurait rien envié à James Bond, à Jason Bourne ou encore à OSS 117, bien au contraire. Juan Puyol García, lui, a réellement existé. Ce fut un espion hors catégorie et probablement le plus grand agent double de l'histoire. Un homme qui s'est porté volontaire et qui a agi pour le bien de l'humanité. Un homme qui a toujours insisté pour dire qu'il croyait à la non-violence, à une évolution pas à pas de la société humaine et qui se méfiait des révolutions qui n'amènent que des excès. Un homme qui a aussi fait sienne, avec un talent hors norme, la fameuse maxime de Winston Churchill qui déclare « En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle doit être entourée d'un rempart de mensonges. » Juan Puyol García était un maître de l'illusion, non seulement dans son travail, mais également dans sa vie personnelle. Il ne s'est jamais pensé en héros, et c'est à se demander pourquoi, finalement, il est si peu connu du commun des mortels. En cherchant sur Internet, vous ne trouverez ni rue, ni place à son nom, ni buste, ni statue à son effigie. Et si c'était encore une fois une entourloupe dont lui seul a le secret? Un dernier coup de génie de cet homme, maître absolu dans l'art de la tromperie. J'ai été ravi de partager avec vous ce récit passionnant, écrit par Thierry de Soif.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.